bien en Périgord.
Philippe Rousseau, vous êtes donc formateur consultant en prévention santé et vous intervenez entre autres auprès d'organismes, de lycées, peut-être de collèges, pour faire de la prévention.
Des entreprises, enfin tous les lieux où on parle de prévention.
Voilà. La première question que je vous souhaitais vous poser, est-ce que les problèmes de sommeil sont une affaire de femmes ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Parce qu'à l'atelier auquel j'ai assisté, il y avait une majorité de dames. Et visiblement, alors soit les femmes ont plus de facilité à parler de leurs problèmes de sommeil, ou est-ce que y aurait une différence selon que l'on est une femme ou un homme ? Est-ce qu'on serait pas forcément égaux par rapport au sommeil ?
Comme on l'avait dit, en gros, il faut revenir à la santé globale. Mais d'un point de vue génétique, il n'y a pas de différence entre le sommeil féminin et le sommeil masculin. Qu'ensuite, les contraintes de la vie puissent gêner plus un sexe qu'un autre, par exemple, au niveau de la maternité, mais ce n'est pas le sommeil en lui-même, c'est les circonstances qui vont modifier, mais il n'y a pas, en tant que tel, on a tous besoin du même temps de sommeil, et on a tous nos cycles, mais c'est tout simplement que, par exemple, aussi, peut-être que d'un point de vue psychologique, la femme étant plus sensible, plus émotive, dans le sens noble du terme, et il se trouve que, vous savez, comme on l'avait dit, que le sommeil, c'est la sécurité. Et donc, peut-être que là, la femme est plus sensible à la sécurité. Donc, en gros, son sommeil peut être plus léger par moment. Mais ça, ce n'est pas dans le sens, je dirais, physiologique du terme, mais psychologique. C'est-à-dire qu'elle est peut-être plus attentive à la sécurité, notamment de ses enfants ou de ce qui se passe autour d'elle. Alors que l'homme, si vous voulez, théoriquement, en étant plus en sécurité, le mal dans son fait que lui, peut-être qu'il va être plus sécure, donc mieux dormir, c'est pas le terme, mais dormir de manière plus libérée, on va dire.
Alors, rappelez-nous quand même, il y a trois ingrédients indispensables pour avoir un sommeil de qualité. L'environnement sécure, vous venez d'en parler.
L'environnement sécure, le côté physique, c'est-à-dire qu'il est évident qu'une personne qui souffre, qui a mal, va mal dormir, et ensuite il y a le côté psychologique qui va intervenir, et disons que le sommeil est là pour récupérer le côté psychologique, mais il y a tout notre tracas qui nous reviennent pendant que l'on dort, tracas ou bonheur, hein, on va pas, et à partir de ce moment-là, si ça me met en insécurité, je ne vais pas dormir, parce que c'est pas que je veuille me répéter, mais le sommeil, la mauvaise qualité du sommeil, c'est soit de l'insécurité physique, la douleur, ou si vous voulez, des problèmes biologiques, c'est 80%, je vais dire, des côtés psychologiques et environnementaux. Le côté physique du sommeil, souvent le sommeil est troublé par du physique. Lui, il y a très peu de maladies du sommeil proprement dit.
D'accord.
Okay. Hein, si vous voulez, après, ça va être parce que j'ai mal au dos, c'est parce que j'ai des remontées, vous savez, les gens qui ont des, sans termes compliqués, gastro-œsophagiennes, hein, qui ont l'acidité qui remonte de l'estomac, etc. Ça va leur faire mal. Donc, ça va les empêcher de dormir. Mais c'est pas. On supprime ça, le sommeil théoriquement revient correct. Hein. Si vous voulez, le manque de sommeil, souvent, n'est qu'un signal. C'est pas en lui-même un facteur prépondérant. Après, il y a des maladies du sommeil proprement dit, mais elles sont extrêmement rares. Hein.
Quels sont les signaux d'alerte qui peuvent nous renseigner sur le fait qu'on a des troubles avérés du sommeil et pas une insomnie ponctuelle parce que des soucis, comme vous disiez, ou parce qu'un problème physique?
Alors, simplement, si vous voulez, c'est de regarder surtout si dans la journée, je vais m'endormir ou avoir des périodes de somnolence régulières pendant la journée et surtout pendant les périodes dites de haute vigilance. C'est-à-dire, en moyenne, pour la moyenne des gens, parce qu'il y a des gens après qui s'endorment plutôt plus tard, on va prendre la moyenne des gens, c'est entre 9h et midi, biennie, et ensuite entre 14h30, 15h et 17h, 18h, si je pique du nez, excusez-moi l'expression,
oui, oui.
Mais de manière régulière, ça veut dire déjà peut-être que j'ai insuffisamment de sommeil. Et là, on repère souvent les gens qui ont des problèmes respiratoires et des apnées, hein, qui, c'est, j'allais dire des ronflements, on peut avoir des ronflements sans apnée, c'est pour ça qu'il ne
oui.
faut pas lier nécessairement les deux, et bien la personne, si vous voulez, à ce moment-là, on va consulter et on va chercher quelle est l'origine de ce manque de sommeil, soit elle sera physique, et là par exemple le ronflement, les apnées, c'est du physique.
Hein, oui.
Mais on va aussi voir l'histoire de la personne, s'il n'y a pas eu un décès, si elle n'a pas, elle va pas partir à la retraite, parce que c'est aussi une cause de tracas, même
oui.
si on souhaite, hein, mais on va changer de vie. Et vous voyez que là aussi, c'est dû à l'environnement.
Oui, c'est
mais
ce que, oui, c'est
ça
ce
peut
que
être aussi parce que le lit est défoncé. Hein, voyez
voilà, ce d'où l'intérêt d'avoir aussi une bonne literie.
Exactement, exactement.
Parce
exactement.
Que souvent, on va chercher...
Et de dormir dans une pièce. Et là, il y a un moment que nous le disons, mais ce n'est pas pour les économies d'énergie.
Oui.
Normalement, on devrait dormir, si on est bien couvert, dans une pièce qui tourne autour entre 16 et 19 degrés.
Et oui.
Hein, parce que si j'ai, dès le moment où j'ai un vêtement de nuit... La chaleur s'en va moins de mon corps. Donc, si vous vous souvenez quand il y avait les duvets, là, quand
oui.
ça conserve la chaleur, il n'y a pas besoin d'avoir une température extérieure importante parce que si la température est trop haute, ça va empêcher l'endormissement et la qualité du sommeil.
D'accord. Hein,
donc, après, ça dépend des personnes, on est bien d'accord. Hein, là, on parle en moyenne, mais si on dormait tout nu dans une pièce, ça serait 20 degrés. Une personne qui dort, si vous voulez, sans protection.
Mais dès
le moment où j'ai un vêtement et que je mets une couverture, il vaut mieux que cette température soit aux alentours de 16-17 degrés.
D'accord. Alors, dans la continuité de cette question, j'aurais aimé que vous nous répondiez pour savoir justement quelles sont les répercussions d'un sommeil de mauvaise qualité.
Alors, elles sont nombreuses et on en a découvert. Il y en a une que je vais dire à la fin. Alors, tout le monde me dit, oui, mais vous êtes oiseau de oiseau dur. Et non, ça fait un moment qu'on le dit. Bon, ben, je vais commencer par elle. C'est tout simplement, on sait maintenant que ça peut avoir une cause dans le développement de certains cancers.
D'accord.
C'est-à-dire, je commence par...
le plus grave, mais bon...
Bon, alors, il ne faut pas s'affoler non plus, mais c'est tout à fait logique, parce que là, on l'avait constaté chez les femmes qui travaillent la nuit et qui ne dorment pas assez, il y a une probabilité d'apparition de cancer du sein qui est assez importante.
Oui.
Et ça, on l'avait constaté, et ça a été tenu en compte, d'ailleurs, par la médecine du travail, qui fait des visites plus fréquentes, surtout chez les femmes, parce que c'est des cellules assez sensibles. Mais pourquoi, si vous voulez, et là c'est le côté positif, pourquoi également l'activité physique fait que ça diminue en gros l'apparition des cancers ou la réapparition, c'est tout simplement que si je me fatigue, je dors mieux,
et, oui.
et c'est pendant le sommeil qu'on va produire les cellules qui identifient les cellules mal formées.
Hein.
D'accord. C'est dans la nuit que sont fabriqués les globules blancs. Alors là, on va quitter le cancer, hein, parce qu'on sait, alors, celle blanche, pour la dernière parenthèse, qu'il faudrait faire attention aux gens qui ont dépassé, disons, 60 ans, il faudrait au moins qu'ils aient 6 heures de sommeil, parce qu'en vieillissant, les cellules cancéreuses, si vous voulez, pas cancéreuses, mais mal formées, deviennent un peu plus nombreuses du fait du vieillissement. C'est pas, encore une fois. Et si je dors correctement, mon système, eh bien, les élimine facilement aussi.
Donc, quand on parle du sommeil régénérateur, c'est le mot qui convient.
C'est
exactement ça.
Régénérateur, un, pour ça, et deux, pour aussi les microbes. Plus je dors, plus j'ai les globules blancs. Alors, d'autres catégories qui vont aller produire des anticorps, etc. Donc, vous voyez, déjà à terme, et enfin, bien sûr, c'est le côté fatigue qui va apparaître, et surtout aussi les pertes de mémoire. On peut... Perte, ce n'est pas le terme, mais que la mémoire ne va pas être aussi performante. Alors, non pas parce que je l'ai perdu, mais au contraire parce que je n'ai pas amagasiné les informations. Alors, c'est pas une perte de mémoire. Hein. C'est, par exemple, en ce moment, vous et moi, on va rêver à ce qu'on a fait là en ce moment.
Oui.
On aura l'enregistrement, si vous voulez, cette nuit, et on va dire, bon, ça, c'est bon, je le jette, ça, je le garde. Mais si je n'ai pas dormi, je n'aurai pas eu ma concentration, et donc, il va me manquer des éléments d'enregistrement.
Oui.
Donc, ce n'est pas que j'ai perdu la mémoire, c'est que je ne l'ai pas eu, quoi.
Ouais.
Si je ne dors pas, le lendemain, je ne suis pas concentré, et vous voyez, le cercle vicieux qui va s'introduire par rapport à ça.
Alors,
mais la mémoire, quelqu'un qui n'a pas de sommeil, c'est quelqu'un qui n'aura pas de performance de mémoire. Pour terminer, il y a aussi la régénération du corps en règle générale, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de l'exercice, et c'est pour ça que si j'ai fait de l'exercice raisonnable dans la journée, mon sommeil va venir compenser et réparer, faire l'entretien, c'est pas que je me suis détruit, et donc si on ne dort pas, on se récupère difficilement, notamment des gens qui ont eu des plaies ou des fractures ou autres, c'est dans la nuit que la cicatrisation va être la plus importante. Parce que malgré ce que les gens disent, mais à notre âge, on a la sécrétion de l'hormone de croissance qui se passe dans la première partie du sommeil, quel
D'accord.
que soit l'âge de la vie.
D'accord.
Alors, chez un enfant, évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais chez nous, dès que l'on se coupe, dès que vous allez avoir fait des exercices physiques, vous allez user vos os de manière normale, il faut qu'ils se régénèrent, qu'ils se reconstituent, et ça se passe dans la première partie du sommeil. Donc,
D'accord.
vous voyez, au point de vue santé en règle générale.
Alors, il y a eu un lien avec les maladies cancéreuses. Est-ce qu'on fait un lien entre un mauvais sommeil, voire des troubles du sommeil importants, et des maladies cardiovasculaires ?
Aussi, exact, vous avez entièrement raison. C'est tout simplement qu'on va demander au cœur de travailler pendant la nuit. Quand je ne dors pas, je suis en éveil et donc le cœur va devoir battre un tout petit peu plus vite,
oui.
même si je suis au repos. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que normalement, la nuit, notre cœur bat moins vite. Donc, on va lui demander, et c'est le gros problème des travailleurs de nuit d'ailleurs, hein,
voilà.
On va demander de faire un effort et donc le cœur va fournir un effort plus grand parce qu'il travaille au moment où il devrait naturellement, entre guillemets, se reposer. Parce que si on regarde les battements cardiaques, nos battements cardiaques sont au minimum dans la nuit et au maximum à 15 heures heure solaire. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'on conseille de faire de l'exercice de performance dans la fin de l'après-midi et non pas dans la matinée ou voire dans la nuit. Ce qui, malheureusement, je me répète, arrive aux travailleurs.
Eh oui,
si vous voulez,
posté, oui. Alors, la sieste revient à la mode un peu, il semblerait.
Mm-hmm.
Quel est son intérêt et comment la pratiquer dans de bonnes conditions pour qu'elle, justement, elle aide les personnes qui auront un mauvais sommeil?
Alors, petit historique, la sieste est le reste d'un cycle de sommeil que nous avions quand on était, disons, tout à fait primitif, parce que les hommes, comme certains animaux, étaient obligés d'avoir du sommeil de jour. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le feu et les armes, donc on dormait sur toute la journée. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a des temps de sommeil différents, parce que pendant que l'un dormait, l'autre veillait.
Oui.
Si bien qu'en gros, si tout le monde avait dormi à la même heure, il n'y aurait pas eu de couverture. Donc, on dormait sur l'ensemble de la journée, et la sieste est un vieux cycle de jour, hein, qui, pour situer. Et donc, en gros, à quoi elle sert? Si elle est bien placée, et si on la fait bien, c'est ce qu'on va évoquer dans un instant, ben qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Ça va abaisser un peu le niveau de fatigue. Je vais pouvoir travailler à nouveau dans la fin de l'après-midi, enfin faire des efforts, et comme ça aura éliminé un peu de fatigue pour l'endormissement du soir, et ça me permet de m'endormir correctement. Par contre, si je fais ma sieste trop tard, comme j'aurai vidé ma fatigue, il est évident que quand le sommeil va arriver, il va dire « j'ai pas assez pour dormir ». Donc,
eh oui.
Si je l'ai faite trop tard ou trop longue, si vous voulez, ça va me retarder dans mon endormissement.
Alors
que si je l'ai faite au bon moment, ça va au contraire m'aider à m'endormir le soir.
Alors, quel est le moment optimal pour la faire et la durée optimale?
Alors, la durée optimale, là, c'est un cycle au maximum, un cycle de sommeil. Alors, pour certains, ça va être 1 heure et demie, pour d'autres 2 heures, mais ça varie pour chacun d'entre nous. Mais ça, c'est le cycle complet de sommeil. Mais pour des gens comme nous qui travaillons ou autres, ça, on va essayer de caler, alors en fonction de la durée totale, hein, soit sur une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes. C'est-à-dire ce qui correspond dans la nuit au fait que si je ne suis pas endormi dans les 20 minutes, il faut que j'attende l'heure et demie, enfin, ou la fin du cycle de sommeil. Donc là, on va volontairement casser, si vous voulez, le cycle, mais au bon moment. Alors, comment le fait-on? C'est tout bête. C'est quand on se connaît un peu, on sait à quelle heure on va piquer du nez là dans l'après-midi, eh bien, il suffit simplement de s'asseoir, éviter de s'allonger, parce que ceux qui ne sont pas habitués risqueraient de plonger dans le cycle complet, et on va tenir un objet comme une clé, comme un... Et à partir de ce moment-là, systématiquement, lorsqu'on va passer dans les cycles de sommeil des stades de sommeil léger au stade profond, on va avoir un relâchement. Et ce relâchement va faire tomber la clé. Et si je suis réveillé à ce moment-là, je n'aurai pas mal à la tête, tout va aller bien et je me suis assez décontracté. Mais si, par exemple, je vais plus loin, c'est là où je vais, comme si je m'étais levé du mauvais pied, hein. Je vais avoir mal à la tête, enfin, être grognon, parce qu'on a été trop loin dans le cycle. Alors, d'accord. Deux solutions, soit 15-20 minutes, soit l'heure et demie ou le cycle complet.
D'accord.
Mais, si vous voulez, si je m'arrête entre les deux, c'est là où on entend des gens dire « Ah, je ne fais pas la sieste parce que j'ai mal à la tête, parce que je ne suis pas bien après », ce qui est tout à fait logique,
logique. Hein,
par rapport à ça.
Alors, un autre problème qui a pu être évoqué, c'est le problème des micro-réveils. Alors, ces micro-réveils, souvent, quand on est âgé, on en a beaucoup. Est-ce que les micro-réveils ne concernent que les personnes âgées ou est-ce que tous les êtres humains ont des micro-réveils dans leur cycle habituel?
Alors, dans leur cycle habituel, tout le monde a des micro-réveils et ils sont tellement courts que l'on ne va pas s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'ils ne nous restent pas en mémoire.
D'accord.
Mais tout au long de notre vie, d'ailleurs, depuis le fœtus, nous ne dormons pas en continu, et je reviens à la notion que je vous avais évoquée, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la notion de sécurité. C'est-à-dire que, en gros, tous les êtres vivants qui ont un sommeil structuré, hein, je ne parle pas des insectes ou autres, hein, je parle des, même au niveau des serpents et autres, on a des cycles, c'est-à-dire de repos et des cycles d'activité. Mais pour une question, c'est que si on dormait trop longtemps, on serait mangé ou il y aurait eu des dangers.
Oui. Oui.
Donc maintenant, c'est un peu dépassé. Mais vous avez vu que psychologiquement parlant, ça reste.
Est-ce que ces micro-éveils sont des réminiscences du monde préhistorique
Exactement.
Oui.
Exactement.
Oui.
Et disons que chez le bébé, vous savez qu'un bébé, il dort pratiquement 20 heures par jour.
Oui.
Et c'est ensuite que ces cycles deviennent plus longs et se regroupent sur la nuit. Et c'est là où on dit « il fait ses nuits ». Eh bien,
oui.
Le bébé, l'embryon, ont un sommeil, j'allais dire, c'est même d'avant, hein, c'est avant préhistorique. Hein, mais quand on dit que l'enfant a fait son sommeil, parce que nous avons, disons, entre 4 et 6 cycles pour certaines personnes la nuit, hein, mais c'est fixe pour chaque personne, la moyenne c'est entre 5-6. Hein. Mais le problème, c'est que le bébé, lui, ces cycles sont d'une quarantaine de minutes, alors que le nôtre fait 90.
Oui.
Vous voyez, et ensuite, quand le sommeil est formé, il va, si vous voulez, faire comme nous. Et le petit détail aussi pour le bébé, un bébé commence toujours ses cycles en rêvant. Alors que nous,
oui.
Le rêve arrive à la fin du cycle.
Après, oui.
Et c'est caractéristique. Et on a l'impression, par moment, quand quelqu'un n'a pas dormi, dans les expériences où on empêche quelqu'un de dormir, et bien dans les premiers cycles de sommeil qu'il va refaire, on a l'impression qu'il veut rattraper le rêve perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on en est au début du cycle, alors que ça devrait être du corps. Quand on s'endort, c'est le corps qui est prioritaire.
Ouais.
Et après, dans la nuit, c'est le rêve qui va prendre le dessus. Les éveils, si vous voulez, en gros, on s'éveille entre chaque cycle. Mais quand on dépasse il y a d'autres raisons, mais puisqu'on parlait de l'âge, à partir de 40 ans, le réendormissement est un tout petit peu plus long, mais c'est pas une maladie, ça, c'est le vieillissement.
Oui, c'est ça.
Et comme c'est un peu plus long, ça me reste en mémoire. Et c'est là où on va entendre, ah, j'ai pas bien dormi cette nuit. Ah bon, mais dites-moi pourquoi vous me dites ça. Parce que je me suis réveillé à 1h30, parce que je me suis réveillé à 3h, parce que je me suis réveillé à 4h30, parce que je me suis réveillé à 6h. Déjà, si vous voulez, vu l'âge de la personne et les circonstances, hein, on va dire, ben, il dort normalement.
Eh oui.
Et on va lui demander ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez très bien posé la question, c'est, mais dans la journée, est-ce que vous vous endormez? Ah oui, ah, et quand? Oh, juste après le repas. Bon, très bien, on va le caser. Mais par contre, ah oui, mais vous savez, le matin, là, vers 10h ou dans l'après-midi, je peine. Alors là, c'est là où le médecin ou la personne va aller plus loin dans son investigation. Mais si la personne dit « je me réveille plusieurs fois dans la nuit et qu'elle pète la forme », c'est de la rassurer, hein, c'est qu'il y a un sommeil normal.
Alors, néanmoins, même si le sommeil est normal, les personnes peuvent être gênées par ces micro-éveils. Qu'est-ce que vous leur conseillez, justement, quelle attitude avoir lorsque l'on a ces micro-éveils et qu'on ne parvient pas à se rendormir? Comment faire?
Mais c'est pas se forcer à se rendormir, parce que si je me suis réveillé, et justement, alors, vous posez une bonne question, et les ateliers, j'ai souvent les gens qui reviennent après les ateliers, qui disent, mais maintenant que l'on sait que c'est normal, comme ils étaient rassurés, beaucoup, si vous voulez, après ces informations, disent, on se rendort normalement, parce que inconsciemment, ils sont rassurés, c'est qu'ils dorment bien. Donc déjà, si vous voulez, ça serait informer les gens, comme quand j'ai dit je le fais, ou mes collègues le font, quand on fait des informations sur le sommeil, vous voyez là, je vais aller dans un collège et un lycée juste après les vacances, et déjà très jeune, on en parle, de façon à ce que quand ça arrive, ben, le cerveau dise, attends, est-ce que je dors mal, ou est-ce que c'est parce que j'arrive à l'âge, ou peut-être, et là, comme on est en sécurité, pof, on va s'endormir. Alors que si je dormais comme un loir jusque-là et qu'on m'a jamais rien dit, comme je dors pas comme avant, et les gens sont toujours dans le mauvais sens, c'est que je dors mal. Et allons-y, on va aller chercher des médicaments ou autre, alors que dans 90% des cas, il y a pas de problème de sommeil. Hein. Proprement dit, c'est un mécanisme qui marche très bien.
Alors, vous me faites la transition avec la prochaine question, c'est formidable. Okay. Les Français sont les champions de l'utilisation des antidépresseurs et autres somnifères. Je crois savoir que vous n'êtes pas spécialement enclin à conseiller le somnifère pour dormir. Expliquez-nous.
C'est tout simplement parce que le somnifère, souvent, donne l'impression que l'on dort bien. La première impression des somnifères classiques, c'est qu'ils vous font oublier vos éveils.
Et
donc,
oui.
Vous avez l'impression de bien dormir, alors que c'est un cache-misère. Et deuxièmement, il se trouve que certains somnifères vont venir troubler la qualité du rêve. Et là, si vous voulez, les médecins essaient de choisir des somnifères qui empêchent, qui vont aider la personne, parce qu'elle en a besoin. Là aussi, il ne faut pas être, si vous voulez, trop intransigeant. Mais le problème, c'est que souvent, après, les personnes, disons, ayant un sommeil de rêve troublé, vont avoir leur psychisme troublé, et vous voyez que ça va faire
ça va entretenir
la boucle par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. C'était il y a quelques années, il y a un monsieur qui a embarqué, vous savez qu'il y a des navires de croisière qui passent à Bordeaux, là, donc il a embarqué, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses somnifères. Et comme c'était un navire suédois ou norvégien, je ne me rappelle plus, il a été voir la dame, le médecin du bord, qui lui n'avait pas ses médicaments, qui avait des médicaments de Suède ou quelque chose comme ça, et a dit ah, « non, je veux mes médicaments ». Et alors qu'il en prenait tous les jours, eh bien, depuis ce jour, c'est lui qui nous l'a dit, hein, il prend plus de somnifères. Donc c'était là le côté, je dirais, placebo qui intervenait.
Parfois, par contre, il aurait pu avoir des soucis avec l'arrêt brutal de ce type de médicament.
Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de conséquence. Il a arrêté du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il nous en parlait. Parce que justement, il était venu à un atelier Et quand on décrit aux gens, hein, là, moi je m'en rends compte même dans les conférences, quand je dis l'histoire de je me réveille à 1h30 et régulièrement, les gens s'y retrouvent.
Bien
Et
sûr.
donc déjà, ça les rassure un tout petit peu. Et là, et j'ai la même réaction que vous, quand ils reviennent me voir, quand on va faire d'autres choses, l'autre jour, c'est une dame qui m'a dit, vous savez, monsieur, je vous remercie. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, vous avez dit qu'on se réveillait dans la nuit et maintenant je ne prends plus de somnifères. J'ai dit, je vous avais dit d'aller voir votre médecin. Ah non, c'est ce que j'ai fait. Et pour elle, elle était rassurée. Et
Et
c'est ça qu'on devrait faire.
dernière question,
Voilà.
justement par rapport à la prise de somnifères. Donc, vous avez très bien expliqué que le corps donc se régénère totalement pendant le sommeil. Est-ce que la prise d'un somnifère peut contrecarrer les effets de cette régénération?
Alors, contrecarrer à 100% non, mais peut modifier la qualité du
D'accord.
sommeil. Donc, modifiant la qualité du sommeil, la qualité de la récupération va être, si vous voulez, disons, pas à son optimum, on va dire, si on
Alors,
parle avec les grands mots.
j'ai une petite question subsidiaire quand même. Il y a une personne qui a témoigné et qui faisait état du fait qu'elle, le soir, se mettait devant la télé et que pratiquement 9 fois sur 10, elle s'endormait devant la télé. Et que, bien entendu, lorsqu'elle allait au lit, elle ne pouvait plus se rendormir. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Et j'ai quelque part l'idée qu'elle n'est pas la seule dans ce cas.
N'allez pas seul dans ce cas. Alors là, si vous voulez, je ne veux pas vous faire de réponse de Normand parce que je ne sais pas si on en avait parlé. Vous savez qu'un des facteurs de mise en sécurité, c'est les rites d'endormissement. Et peut-être que chez certaines personnes, la télé est un rite
Oui.
d'endormissement. Si je vous réponds scientifiquement parlant, vous voyez, là
Oui.
aussi, il faut prendre les. Scientifiquement parlant, on devrait éteindre la télévision. Si je suis un scientifique rigoriste et fermé, je vous
Oui.
dirais qu'il faudrait le faire 1h30 avant de pouvoir de son endormissement normal. Bon.
Oui.
Nous, on dit, si une quarantaine de minutes avant d'aller se coucher, on éteint la télé pour se mettre en situation de s'endormir. Mais il y a certaines personnes qui, elles, si vous voulez, si elles n'ont pas la télé, elles ne s'endormiront pas.
C'est ça.
Alors, je dirais, entre le fait de ne pas dormir et autres, cela, c'est après en discuter avec la personne. Mais c'est vrai que les ondes de la télé vont en plus, les ondes lumineuses, pardon, de la télé et surtout des écrans vont retarder la sécrétion de mélatonine parce que l'œil va avoir l'impression qu'il fait encore jour.
Mais
D'où la
oui.
qualité de l'endormissement ne va pas être la même que si j'avais éteint et que je laisse venir la mélatonine, si vous voulez, qui est l'hormone du sommeil, hein,
Bien sûr.
naturellement. Mais c'est pour ça qu'on déconseille aux enfants et aux personnes là, ne parlons pas que de la télé, mais aussi et surtout des écrans qui sont encore plus concentrés, si vous voulez,
Oui.
par rapport à l'émission de la lumière bleue. Parce que ce n'est pas les autres lumières, c'est la lumière bleue. Et si vous voulez, suivant le moment de la journée, le soleil en émet en intensité variable. Et c'est ce que reconnaît l'œil, d'ailleurs. Et donc, il va déclencher la mélatonine. La mélatonine sécrétée va entraîner tout ce que je vous ai dit, la
D'accord.
sécrétion des globules blancs, enfin bref, tout ce qui est dans le sommeil. Et si vous voulez, mais c'est surtout quand on ne peut pas s'endormir, j'allais dire, excusez-moi l'expression, on coule Raoul, il ne faut pas se mettre dans l'idée, si je ne peux pas m'endormir, je ne serai pas bien demain. Effectivement, il me manquera un cycle de sommeil, mais il vaut mieux que je re-rentre dans mon sommeil correctement plutôt que de m'y forcer, de tourner dans le lit et je ne vais pas être bien demain matin. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, ben peut-être que je ne vais pas prendre le sommeil suivant. Donc, quand des gens disent, vous entendez souvent, j'ai pas dormi pendant 3 heures cette nuit. Hein, souvent, les gens
Oui,
disent, et
oui.
regardez, 3 heures, c'est 2 fois 1h30.
Oui, c'est ça. Oui,
C'est
c'est
donc
vrai.
le cycle de sommeil. Hein, donc, voilà.
Eh bien, écoutez, Monsieur Rousseau, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je suis
Voilà.
persuadée que ça va intéresser pas mal de personnes qui ont du mal à trouver le sommeil.